Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. On est en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe du vendredi. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir Elisabeth.
Marion, votre choix de l'actu du jour.
Une des mesures phares du Rassemblement national, la suppression de la TVA sur les produits de base décryptée par des spécialistes.
Mohamed, votre story.
À plusieurs reprises, les eurodéputés RN se sont abstenus dans les décisions contre les sanctions de la Russie. On revient ce soir sur les relations entre le Rassemblement national, Marine Le Pen et la Russie.
Patrick, votre édito.
Marine Le Pen n'est pas tout à fait la même qu'il y a 5 ans. Son programme non plus. Je vais jouer au jeu des 7 différences.
Il est beaucoup question de Marine Le Pen puisque nous recevons ce soir le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, sera dans un instant sur notre plateau. Mathieu, dans le 5 sur 5, à part le fait que vous fêtiez aujourd'hui vos 38 ans, bon anniversaire.
Merci Babette. Un autre anniversaire beaucoup moins joyeux, celui-ci il y a 3 ans jour pour jour. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Et nous sommes ce soir avec Jean-Louis Georgelin, le général Georgelin, qui est, vous le savez, président de l'établissement en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale. Il va nous dire tout simplement où en est le chantier, quelque part, et si on peut espérer avoir Notre-Dame pour les Jeux de Paris 2024.
Et Pierre, dans votre œil.
Je pourrais vous dire qu'il ne les fait pas vraiment, ses 38 ans, mais en fait, ce sera deux yeux. Ce sera plutôt deux yeux en un. Alexandra David-Neil et Amelia Earhart, deux héroïnes magnifiques. Une exploratrice de l'Orient et une aviatrice de légende, ce sont mes deux héroïnes du jour.
C'est plus intéressant.
Deux héroïnes pionnières de l'aventure, parce que nous vous proposons ce soir après 20h une spéciale aventurier de l'extrême avec quatre aventuriers, deux femmes, deux hommes, Sarah Marquis, Géraldine Danon, Mike Horn et Steve Stievenard, alias l'homme phoque, qu'on a le plaisir de vous présenter. L'homme phoque parce qu'il se baigne par des températures polaires et qu'il se nourrit de poissons gras quasiment exclusivement pour justement se protéger du froid. Ben oui.
C'est tout Patrick, ça.
Ouais. Voilà, sauf qu'il ne nage pas. Voilà, c'est la seule différence entre Patrick et Stievenard. Jean-Michel Bardet, il n'y a pas du poisson, mais il y a presque du poisson. C'est du poulpe.
Presque du poisson, c'est du poulpe ce soir. Donc je vous présente un houmous de petits pois et amandes de la Drôme avec poulpe rôti aux aromates et un bao pour accompagner à l'orange.
Voilà, pour terminer cette semaine magnifique.
Merci beaucoup.
Vous nous avez gâté toute cette semaine. Jean-Michel, on est ravis. Merci et à tout à l'heure, chef.
Un plaisir.
À 9 jours du deuxième tour, accusé par ses adversaires de mener une campagne en chaussons, Marine Le Pen sort de sa zone de confort, quitte à être bousculée sur la forme et sur le fond. Un meeting hier soir à Avignon, une ville où dimanche dernier Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête des votes. Et ce matin, le marché de Pertuis, dans le Vaucluse, où la candidate RN a été interpellée plusieurs fois sur la question du voile. Reportage signé Louis Amar, Camille Schmitt pour C'est à vous.
Nous voilà presque arrivés au bout du chemin.
Vous savez ce qu'elle m'a dit, votre fille ?
Non, dites-moi, Marie.
Elle m'a dit, est-ce que quand tu seras présidente de la République,
oui,
tu pourras m'emmener à Disneyland ?
Oui, oui, oui.
Elle est très bien. Pourquoi vous êtes contre le voile ?
Le voile, c'est un uniforme que cherche à imposer, au fur et à mesure du temps, des gens qui ont une vision radicale de l'islam.
Vous toujours les immigrés.
Non, non, non.
Nous sommes d'origine algérienne, mais nous sommes français.
Écoutez-moi, pour que je vous rassure. Tous les Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quel que soit leur prénom, quel que soit quoi que ce soit, tous les Français, je me bats pour eux.
Mais il faut tenir ce discours tout le temps.
Qu'est-ce que vous avez dit à Marine Le Pen ?
Que nous sommes Français comme les autres.
Elle vous inquiète, Marine Le Pen ?
Mais bien sûr ! Bien sûr, hier son message était un peu radouci, etc. Mais j'ai pas confiance. Ça, c'est pendant les élections. Ils parlent comme ça en disant qu'ils vont faire. Mais une fois élue, elle va commencer par nous. Moi, je m'inquiète pas, j'ai ma retraite. Mais mes enfants, mes petits-enfants, non, je n'ai pas confiance en elle.
Bonsoir Jordan Bardella.
Bonsoir.
Président du Rassemblement national. Merci de votre présence ce soir. Ces questions posées à Marine Le Pen ce matin dans le Vaucluse, c'est le signe de quoi ? Que certaines de ses propositions, comme celle sur le port du voile, suscitent une réelle inquiétude dans la population, chez les électeurs ?
Vous savez, il y a eu des études d'opinion qui ont été faites sur cette question. Un sondage IFOP qui avait été commandé par France Télévisions il y a quelques mois nous disait que 65% des Français étaient favorables à l'interdiction du voile. Évidemment, il ne s'agit pas de pointer du doigt, il s'agit juste de dire que le voile est un outil aujourd'hui de contestation de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a certes des personnes qui font le choix personnel, intime, de le porter par décision, par choix. Moi, je suis en désaccord avec cette vision-là. Et puis, il y a d'autres filles, d'autres femmes qui se voient imposer le voile par les fondamentalistes islamistes. Et bien souvent, pour beaucoup de jeunes filles de confession musulmane, c'est vrai, porter le voile dans une cité, c'est l'assurance d'être tranquille quand on sort dans la rue, de ne pas se faire agresser, de ne pas se faire importuner. Donc, voilà, mais vous savez, je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui d'apaiser les choses dans la société française. Et c'est vrai que l'idéologie islamiste...
Ça va apaiser les choses que d'interdire le voile, ce qui n'est fait à ce point, ce qui n'est fait nulle part dans le monde. Hein.
Non, mais si vous voulez, il ne s'agit pas d'interdire le voile pour interdire le voile. Nous allons faire voter, au cours de notre quinquennat, une loi contre les idéologies islamistes. Cette loi contre les idéologies islamistes, elle a vocation à prendre des mesures administratives très fermes sur la fermeture des mosquées radicales, sur l'expulsion des étrangers radicalisés vers leur pays d'origine. Encore une fois, on va appliquer la loi sur des mesures qui sont assez très largement partagées par les Français. Et puis, le voile n'est plus seulement un vêtement religieux. On n'est plus dans les années 60, on n'est plus dans les années 70-80. Et moi, si vous voulez, ça me choque dans beaucoup de pays du monde, dans beaucoup de pays de culture musulmane, des femmes soient... parfois poursuivies en justice parce qu'elles portent le voile, se battent pour enlever le voile parfois au péril de leur vie.
C'est vrai, mais...
Quand en France,
soit d'autres
le vol
est
le choix,
obligatoire, soit il est totalement interdit. En fait,
se font le choix de le porter. Mais on fera ça sereinement, tranquillement. Parce
sans
que je pense
urgence,
que...
a dit Marine Le Pen ce matin sur BFM TV, mais elle a répété que c'était une mesure essentielle. Alors je ne comprends pas bien. Pourquoi est-ce que les questions essentielles ne sont pas traitées en urgence?
Vous savez que les deux priorités que nous avons et que nous avons développées dans cette campagne, c'est d'abord la question du pouvoir d'achat. Et la première mesure qu'on fera voter à l'Assemblée nationale, puisque c'est une mesure rectificative du budget, c'est l'abaissement de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant,
on y reviendra longuement,
l'essence, l'électricité, le fuel, sur les énergies, pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Et puis, c'est d'engager ce référendum sur l'immigration. Mais vous savez, il y a beaucoup de Français issus de l'immigration qui sont arrivés dans les années 60, 70, dont ma famille, d'ailleurs, qui ont fait un effort exigeant qui était l'assimilation, qui ont respecté nos modes de vie, qui ont fait cet effort de s'inscrire dans le roman national, dans les modes de vie françaises, qui travaillent, qui respectent nos lois et qui sentent aujourd'hui que des générations qui viennent sont dispensées de cet effort. Et nous ne demandons rien d'autre aux gens qui viennent dans notre pays que de nous ressembler et que de vivre comme nous, comme nos modes de vie l'exigent.
Appliquer cette mesure sereinement, tranquillement, ça veut dire ne pas forcément déployer des forces de l'ordre, des forces de sécurité pour faire respecter la mesure et pour
ça veut dire
faire
qu'on va...
enlever le voile aux femmes qu'ils portent.
Ça veut dire, pour être extrêmement concret, que dans un premier temps, on veut donner aux chefs d'entreprise la possibilité, dans l'entreprise privée, d'interdire les revendications politico-religieuses. On a vu, il y a beaucoup d'exemples dans l'actualité d'entreprises. On se souvient des problématiques à la RATP, par exemple, des lieux de prière souterrains, des lieux de prière dans les locaux de la RATP. Donc, on veut, si vous dans un premier temps, donner aux chefs d'entreprise la possibilité de combattre les revendications politico-religieuses dans l'entreprise. Deuxièmement, on ira sur l'ensemble des bâtiments publics, l'université, les mairies, tous les bâtiments publics. C'est le cas aujourd'hui, je vous rappelle, de cette loi 2004 qui s'applique à l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le voile, considéré comme signe religieux ostentatoire, est prohibé à l'école.
Ça s'applique aux agents des services publics aussi.
Oui, tout à fait. Et donc, évidemment, on ne pourra pas, par exemple, être accompagnant et accompagner son enfant en portant un uniforme. Mais moi je veux juste dire et rassurer, je veux dire, tout cela se fera sereinement, calmement. On n'est pas Emmanuel Macron, on ne va pas arriver à opposer les Français les uns aux autres. Et je pense que...
C'est une mesure qui inquiète, hein, vous l'entendez.
Oui.
Mais encore une fois... 65% des Français soutiennent cette mesure. Donc, elle inquiète, elle vous inquiète peut-être vous à titre personnel.
Ah, c'est pas nous,
elle inquiète
c'est
peut-être
là.
Certains. Et pourquoi
c'est,
est-ce que.
C'est une femme qui a visiblement fait des efforts pour s'intégrer, qui a expliqué qu'elle touchait sa retraite, donc elle a
bien
travaillé,
sûr.
Elle a cotisé,
bien
elle a payé
sûr.
Des impôts.
Aucun...
Et elle veut porter le voile et elle s'inquiète.
Et je n'ai aucun doute
de
là-dessus.
De ce droit-là, cette liberté-là.
Et... Mais vous savez, je pense que ce serait insultant pour cette dame que de considérer qu'elle ne respecterait pas la loi. On serait en désaccord avec cette loi. Je veux dire, la loi, c'est l'émanation du peuple français. À partir du moment où le peuple français le décidera, fera élire des représentants qui soutiennent cette mesure, alors nous mettrons en place cette loi qui sera votée à l'Assemblée nationale. Mais vous voyez, Marine Le Pen, elle va au contact. Elle va au contact de personnes qui, peut-être, ont besoin que nous précisions certains points, que nous expliquions comment nous allons organiser les choses. Et je pense qu'on peut peut-être tout nous reprocher, on peut être en désaccord avec nous, mais avec Marine Le Pen, il n'y aura pas de faux. Je pense qu'il y a une sincérité qui se dégage de cette campagne chez elle, et les Français maintenant la connaissent bien, donc il n'y aura pas de surprise. Et même si on est en désaccord avec elle, on peut au moins lui admettre qu'elle aime profondément les Français et qu'elle les respecte.
Le Monde et Libération font aujourd'hui le récit de ce qu'ils ont vu et entendu hier soir dans le public du meeting d'Avignon. Des phrases telles que « les Arabes, c'est de la merde » ou « les musulmans ne sont pas tous des délinquants, mais une grande partie le sont » ou encore « on se fait bouffer par les Arabes, c'est le seul peuple qui n'est pas comme nous, la France n'est pas une poubelle ». Ça, c'est une retraitée de Dijon venue au meeting cité par Le Monde. Que répondez-vous à ces Français et à la haine qu'ils expriment à l'égard d'une autre partie de la population qui vit en France, qui assiste au meeting de Marine Le Pen et qui vont voter pour
d'abord,
Marine Le Pen.
D'abord, ces propos, je les condamne, je ne sonde pas les cœurs et les reins. Et comprenez bien que notre projet n'est pas de mettre en pratique ce type de phrase. Maintenant, vous savez, dans des meetings, dans des réunions publiques, il y a des centaines, des milliers de personnes qui viennent d'horizons politiques parfois divers, certains du Rassemblement national, d'autres de l'extérieur. Et vous comprenez bien que quand on est à l'entrée d'un meeting, madame, où vous avez 4, 5, 6 000 personnes, vous n'allez pas sonder les cœurs et les reins de toutes les personnes qui rentrent dans ce meeting.
Non, mais ce sont des électeurs de Marine Le Pen qui pensent qu'en appliquant sa politique de l'immigration, vont éventuellement faire en sorte que ces hommes et ces femmes, ces Arabes, quitteront le sol français.
Eh bien, je leur dis qu'ils se trompent. Voilà, et que nous avons une fermeté très claire sur la question de l'immigration. Mais peut-être qu'ils seront déçus. Mmh. Mais si certains pensent que notre projet politique est de retirer la nationalité française, de retirer des droits à des gens qui les ont acquis au cours de ces dernières années, alors je leur dis qu'ils se trompent. Encore une fois, je ne confonds pas d'abord une politique et les gens. Nous sommes opposés à l'immigration pour des raisons philosophiques, parce que dans un pays qui compte 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, un Français sur quatre qui ne mange plus à sa faim ou qui est contraint de sauter des repas, le besoin aujourd'hui du politique, c'est d'être au chevet du peuple français et de tout mettre dans la solidarité nationale. Mais il y a aussi des gens issus de l'immigration qui sont dans des HLM, avec qui moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, et qui subissent aujourd'hui l'insécurité, qui subissent aujourd'hui l'inquiétude des fins de mois. Et moi, je veux dire les choses de manière très claire. Notre politique, elle se dirigera à tous les Français. Tous les Français, c'est le slogan de Marine Le Pen pour ce second tour. Et je veux juste dire à l'ensemble des Français qui nous écoutent, ne vous fiez pas aux caricatures, ne vous fiez pas aux prêt-à-penser. Allez lire notre projet, allez écouter Marine Le Pen et ne vous fiez pas à ce qu'on va essayer de vous faire croire ou à ce que Libération, que plus grand monde n'achète d'ailleurs, tentera de vous faire croire pour discréditer tout un mouvement politique, ses cadres, ses dirigeants et son amour pour la France.
Ils mentent là, les journalistes de Libération, du Monde?
Non, je ne dis pas qu'ils mentent, mais...
Qui reproduisent des... Non, mais... D'ailleurs, je crois que le nom de la dame citée par Le Monde est nommé. Enfin, elle est nommée.
Non, mais je ne dis pas que Libération ment, mais je dis qu'on cherche à jeter le discrédit sur le Rassemblement National, sur son projet. Je vous mets au défi
de
trouver...
interroger les participants à un meeting.
Je vous mets...
Ça
non, mais vous avez le droit...
Mais ordinaire. Ne
jugez... Mais, monsieur Cohen, nous ne sommes personne pour juger les Français. Les Français, ils ont leurs histoires, ils ont leur vie personnelle. Ces propos-là, je ne suis pas en adéquation avec.
D'accord.
Et je vous mets au défi de trouver un seul point dans notre projet, dans mon discours, dans le discours de Marine Le Pen, qui pourrait se rapprocher d'une forme de violence. Je pense que la violence est plutôt à chercher du côté d'Emmanuel Macron, qui depuis 5 ans a jeté les Français les uns contre les autres. Et Marine Le Pen sera la candidate du bien commun, de la concorde, et celle qui rétablira l'autorité de l'État.
Une candidate qui a appelé hier à faire barrage contre Emmanuel Macron.
Le 24 avril, si les Français ont à faire barrage, c'est au retour d'Emmanuel Macron. Faire barrage à un nouveau quinquennat de désolation sociale et de déconstruction nationale. Faire barrage aussi, mes amis, à cette caste qui nous gouverne avec arrogance. Ce pouvoir de quelques-uns au bénéfice de quelques-uns. Ce pouvoir de l'entre-soi où règne cooptation, népotisme, qui illustre parfaitement les affaires MSC, McKinsey et bien sûr Alstom.
Vous pensez qu'il est plus efficace d'appeler à voter contre Emmanuel Macron que pour Marine Le Pen ?
En votant contre Emmanuel Macron, on vote pour Marine Le Pen. Et en vérité, notre...
C'est pas tout à fait pareil.
Notre...
Un vote de rejet est assez différent d'un vote d'adhésion, non ?
Oui, vous mais
pensez
vous savez que la 5e République... Votre projet,
vos idées ne suffiraient pas à susciter l'adhésion
des bien sûr, telle que la pensée le général de Gaulle, et qu'au premier tour, vous rassemblez votre camp et qu'au deuxième tour, vous éliminez le candidat d'en face. Il est évident que vont venir utiliser le bulletin de vote Marine Le Pen des gens qui, peut-être, ne partagent pas l'intégralité de notre projet. Sinon, ils auraient voté pour nous dès le premier tour. Il y a deux candidats qui sont qualifiés aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est Emmanuel McKinsey contre Marine Le Peuple. En fait, ce n'est pas seulement deux choix de personnalité, c'est deux projets de société radicalement différents. Moi, je dis aux Français, si vous voulez la retraite à 65 ans, si vous voulez le saccage social, si vous voulez la saignée fiscale et les 60% de taxes sur les carburants, Emmanuel Macron avait, dès son élection, augmenté la TICPE, c'est-à-dire les taxes sur l'essence. Si vous voulez, une agression gratuite toutes les 44 secondes sans réaction de l'État, sans volonté de remettre de l'ordre dans le pays, eh bien, il faut voter pour Emmanuel Macron. Moi, ce n'est pas ce choix, parce que je pense qu'Emmanuel Macron a fait beaucoup de mal au pays et qu'il y a beaucoup de Français, en vérité, 72% des électeurs français ont voté contre Emmanuel Macron. Donc si le peuple vote, le peuple gagne. Si les Français
78 contre Marine Le Pen
nous
aussi.
Rejoignent, mais Marine Le Pen, elle n'est pas en exercice. J'espère qu'elle le sera dans quelques temps. Mais Emmanuel Macron, il a été 5 ans au pouvoir, il aurait pu les convaincre, ces 72 ou 78% de Français. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il laisse un pays avec 600 milliards d'euros de dette, un effondrement de l'école, une insécurité qui est partout. C'est le grand absent de cette campagne, mais ce n'est pas être de droite ou être de gauche que d'être victime de l'insécurité.
Un million de voix gagnées en 5 ans, c'est ça, Patrick, pour Emmanuel Macron?
Oui, un million de voix gagnées contre 500, 600 000 pour Marine Le Pen.
Mais préciser une chose, c'est que Marine Le Pen améliore son score de 2017 avec une concurrence directe, Éric Zemmour, à 7%. Donc, en vérité, le bloc national, des idées nationales, est en fait assez haut dans cette élection présidentielle.
J'ai écouté Marine Le Pen ce matin, j'ai cru comprendre qu'elle n'avait rien à voir avec Éric Zemmour.
Enfin, excusez-moi, mais évident qu'une grande partie des gens qui ont voté pour Éric Zemmour, vous nous l'avez assez reproché tout au long de la campagne, ont probablement voté pour tous les journalistes et les observateurs avaient probablement voté pour elle en 2017. Donc nous avons un réservoir. En revanche, ce que nous disons, pour vous répondre concrètement, c'est que je pense que des patriotes de droite, il y a des patriotes à droite, il y en a à gauche. Je pense que des amoureux de la France, des amoureux de la laïcité, des gens qui veulent la protection sociale et en même temps la protection physique en luttant contre l'insécurité, il y en a partout. Et c'est aussi le choix d'une personnalité, je veux dire... Emmanuel Macron, il est clivant, et ne lui donnez pas un chèque en blanc. Parce qu'un chèque en blanc, c'est 5 années de plus de casse sociale et c'est une retraite à 65 ans qui va faire beaucoup de mal aux Français. Je parle de ça parce que c'est la seule mesure en fait concrète. Est-ce que les Français sont en capacité de citer plus de 3 mesures que propose Emmanuel Macron?
On va citer les vôtres.
Mais avec grand plaisir, je suis là pour ça.
On va décrypter le problème de Marine Le Pen, c'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Patrick, vous vous êtes donc penché sur le programme de Marine Le Pen et sur ce qui a changé par rapport à 2017.
Alors c'est un programme plus maigre, en tout cas plus simple. Il y a 5 ans, Marine Le Pen présentait 144 engagements présidentiels. Cette fois, le projet est décliné en 22 mesures et 72 propositions avec une série de livrets thématiques et pas mal de changements au chapitre économie. Il y a 5 ans, la candidate du RN promettait la retraite à 60 ans avec 40 annuités pour tous, on en a parlé. Une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu sur les plus basses tranches. La suppression du prélèvement à la source, une baisse des charges et des impôts pour les PME, l'abrogation de la loi travail, la loi El Khomri, et le maintien de l'impôt sur la fortune. Tout cela a été abandonné. La retraite à 60 ans, on en a parlé ici, ne profiterait qu'à ceux qui ont commencé avant 20 ans. Mais cela reste la mesure la plus coûteuse pour les finances publiques de votre programme, avec sans doute la nationalisation des sociétés d'autoroutes. Et parmi les autres mesures nouvelles du programme 2022, la baisse de la TVA à 5,5 sur les carburants, l'exonération de cotisations patronales des hausses de 10% des salaires inférieurs à 3 SMIC, l'exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, la suppression de l'IFI, l'impôt sur le patrimoine immobilier et son remplacement par une taxe sur la fortune financière, et la privatisation de l'audiovisuel public. Ce n'est pas exhaustif, mais ce sont quelques-unes des mesures nouvelles du programme de Marine Le Pen.
C'est sur l'Europe que le changement est le plus spectaculaire.
Oui, il y a 5 ans, la rupture avec l'Europe et sa monnaie était au centre de la campagne de Marine Le Pen. Le rétablissement de notre souveraineté monétaire et économique était le premier de ces 144 engagements présidentiels. Sortie de l'euro, retour au franc, référendum sur la sortie de l'Union européenne, sortie de l'espace Schengen et retour aux frontières nationales avec 6000 douaniers pour les garder et sortie de la politique agricole commune.
Tout cela a été abandonné.
Oui, disons que c'est la méthode qui change et l'affichage beaucoup plus discret. L'Europe n'apparaît plus en tant que telle dans le programme de la candidate, pas de chapitre ou de livret dédié. On sait que l'une de ses premières mesures restera de retirer le drapeau européen des bâtiments officiels. Elle veut sortir du marché européen de l'électricité, réduire de 5 milliards la contribution française à l'Europe, au budget européen, rompre les coopérations en cours avec l'Allemagne, mais sans dire si elle entend...
Militaire.
Parce qu'elle n'a pas dit si elle entendait dénoncer le traité d'Aix-la-Chapelle qui lie les deux pays et qu'elle avait qualifié il y a 3 ans d'acte de trahison. Donc c'est non. Elle ne le dénonce pas.
C'est non. Mais en tout cas, il n'y aura pas de partage du siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU.
Ce qui
était sous-entendu derrière.
Ce qui n'était pas absolument pas écrit dans le traité. Et surtout, affirmer par référendum la primauté du droit national sur le droit européen. Ce qui revient à rompre avec les traités fondateurs d'une union que Marine Le Pen veut, dit-elle, transformer de l'intérieur pour aboutir à une alliance européenne des nations. Rompre avec les traités, cela signifie un Frexit. D'où ma question, Jordan Bardella. Est-ce que vous pensez sérieusement que ce programme est compatible avec le maintien de la France dans l'Union? Et est-ce que vous diriez qu'à terme, pas dans les premières années d'un quinquennat Le Pen, à terme, votre objectif n'a pas changé? C'est-à-dire ce que vous disiez en 2017, rendre à la France sa souveraineté, ses souverainetés dans tous les domaines, et rompre et s'émanciper de l'Europe.
Nous voulons tout changer sans rien détruire. Marine Le Pen fera son premier déplacement en tant que présidente de la République française à Bruxelles pour réunir l'ensemble des chefs d'État européens et pour se mettre autour de la table et impulser cette transformation, vous l'avez assez bien souligné, de l'Union européenne aujourd'hui qui ne marche pas, ultralibérale, qui prône la dérégulation, la guerre du tous contre tous, en une alliance européenne des nations. En vérité, l'Europe aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, je vous rappelle qu'elle a d'abord été rejetée par les Français en 2005 lors du référendum, qui a été violé par François Hollande et Nicolas Sarkozy à l'époque, par la droite et par la gauche, voté, passé sous la forme du traité de Lisbonne.
Qui a été violé, si vous voulez, par Nicolas Sarkozy, après qu'il ait dit dans sa campagne présidentielle de 2007 qu'il rétablirait un traité constitutionnel. C'était clairement expliqué dans sa campagne.
Avec le soutien de la gauche, donc c'est bien normal que M. Sarkozy et M. Hollande se retrouvent aujourd'hui sur le même candidat. Et puis aux élections européennes de 2014 et de 2019, où le Rassemblement national était en tête sur cette idée, transformer l'Union européenne en une alliance européenne des nations.
Donc vous voulez détricoter les institutions actuelles.
L'idée, c'est d'abord de récupérer un certain nombre de prérogatives. La première des prérogatives qu'on souhaite récupérer, c'est la possibilité de faire du patriotisme économique. Clairement, ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir donner à nos entreprises un avantage dans la commande publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple, dans les cantines des mairies du Rassemblement national, on fait en sorte de pouvoir manger local, de pouvoir mettre de l'alimentation locale pour soutenir nos filières, soutenir nos agriculteurs. Sauf qu'on le fait, je dirais, un peu contre la réglementation européenne, en essayant d'utiliser des critères sociaux, environnementaux, c'est très difficile. Nous, on veut que directement, les entreprises puissent avoir, les TPE-PME, une priorité dans la commande publique. Non, mais ça c'est aujourd'hui interdit. Deuxièmement,
ça c'est des aménagements. On souhaite reprendre.
Non, ce n'est pas des aménagements.
L'essentiel. Par exemple, je vous prends un exemple. Marine Le Pen, présidente, décide unilatéralement de réduire la contribution française au budget européen?
Non, M. Cohen, c'est le Parlement qui vote. C'est l'Assemblée nationale qui vote la contribution.
C'est dans son programme, c'est...
Oui, bien sûr.
Je réduis la contribution française au budget européen. Donc elle le décide unilatéralement.
Bah, unilatéralement voté par l'Assemblée nationale.
Oui, bien sûr.
Bien sûr,
elle le décide.
Bien sûr.
Au risque de se voir privé en retour des fonds européens qui nous sont versés.
Non, parce que...
Par exemple, au titre de la PAC, c'est 10 milliards d'euros par an.
Mais il vient d'où cet argent?
De l'ensemble des contributions des pays européens.
Mais non, puisque nous sommes contributeurs déficitaires. On donne en moyenne...
Oui, c'est le principe de la solidarité.
Ah, d'accord. Non, mais on donne en moyenne 23 milliards, on en récupère 15. Donc on perd cash en moyenne, avec la rétrocession des droits de douane, 9 milliards. On souhaite baisser ces 9 milliards à 4 milliards. Donc on gagne 5 milliards d'euros dans le budget de l'État. Donc on souhaite baisser la contribution à l'association Union européenne pour reprendre le langage des macronistes.
Si vous dites ça, les autres membres du club vont dire bah, écoutez,
mais la moyenne est déjà beaucoup plus basse. Je veux dire, il n'y a pas que la France donne beaucoup plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Parce
vous voulez vous affranchir de règles qui ont été fixées à 27
exactement.
Et qui ne peuvent se défaire qu'à 27 à l'unanimité.
Exactement. Et on va se mettre autour de la table avec l'ensemble des partenaires européens, parce que croyez-moi, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui considèrent que l'Union européenne s'est dotée de pouvoirs complètement délirants et qu'elle nous mène dans le mur. Et qu'elle est en tout cas aujourd'hui, l'Europe est en train de nous faire passer à côté des grands enjeux du XXIe siècle, que sont la transition environnementale, l'intelligence artificielle et les grands projets qui pourraient réunir. Ce qu'on veut, c'est une Europe à la carte. On veut une Europe qui a marché, on veut l'Europe qui a fait Ariane, qui a fait Airbus et qui permet aux États européens de se mettre, c'est-à-dire de donner beaucoup plus de pouvoir au Conseil qu'à la Commission européenne.
Vous confirmez que votre objectif à terme n'a pas changé sur le retour à une souveraineté, y compris monétaire à terme, c'est-à-dire... une sortie de
non, il n'y aura pas de sortie de l'euro si Marine Le Pen est élue présidente de la République.
Et
il n'y aura pas de Frexit, mais en tout cas, il y aura une volonté très très forte de récupérer nos souverainetés et de récupérer, par exemple, aussi, la maîtrise de nos frontières. Oui. Voilà, en sortant l'espace Schengen. Ben, ça s'appelle sortir de l'espace Schengen.
C'est plus dans votre programme.
Et nous souhaitons, je vais aller au bout, restreindre la libre circulation aux ressortissants de l'Union européenne. C'est-à-dire que vous êtes français. Vous venez de l'extérieur de l'espace Schengen, vous venez de l'Algérie, du Maroc, de Grande-Bretagne, puisque maintenant la Grande-Bretagne est hors de lieu, il y a un contrôle des passeports aux frontières. En revanche, vous êtes français, vous voulez passer un week-end à Rome, un vendredi, rentrer le dimanche, il n'y aura pas de contrôle des passeports à la frontière. Mais en tout cas, on veut que la France récupère des frontières de la même manière que toutes les maisons françaises ont des portes.
Un petit mot encore sur l'Europe, parce que vous dites beaucoup de choses sur, généralement pas en bien sur l'Europe. Marine Le Pen, hier soir en meeting à Avignon, elle a expliqué que Emmanuel Macron cherchait à mettre en place un SMIC européen, ce qui ferait baisser le SMIC français à 700 euros.
Bah oui,
C'est faux. Bah, vous savez parfaitement que
non,
c'est faux.
Non, alors j'ai eu ces débats-là pendant toute la campagne européenne
c'est,
avec.
C'est un bobard.
Non,
ce n'est pas. Il est mis en place pour faire monter le SMIC des pays qui sont inférieurs.
Mais qui vous garantit cela? Vous croyez qu'on va aligner économiquement des pays comme la France et la Roumanie? Bah, j'ai plus le SMIC en tête de la Roumanie, mais il est extrêmement faible. Ou le SMIC de la Bulgarie. Non, mais... Vous croyez qu'on va mettre au même niveau les pays les plus pauvres de l'Union européenne avec la France ou avec l'Allemagne?
Vous pensez sérieusement qu'on va aligner le SMIC français sur le SMIC roumain?
Écoutez,
c'est ça
Cohen,
le projet.
Quand j'entends le président de la République, Emmanuel Macron, nous parler d'un RSA dont les modalités reviendraient à mettre en place des jobs à 6 euros de l'heure, oui, je pense que la précarité pour tous
et la
précarité généralisée et l'ADN des gens
là,
qui sont au pouvoir.
Vous savez
et je suis en désaccord avec cette logique.
Vous êtes député européen, vous savez parfaitement que le projet de SMIC européen, ça n'est pas ça. Vous racontez sciemment des bobards.
Eh bien, je suis en désaccord avec vous, voyez. Et quand, encore une fois, les Français entendent que le chef de l'État veut mettre en place un SMIC, un RSA, beaucoup plus faible que le SMIC, à 6 euros de l'heure, peut-être pour s'inspirer de l'Allemagne qui a mis en place des jobs à 1 euro de l'heure. Eh bien, permettez-moi d'avoir des doutes. En tout cas, la précarité pour tous, on la rejette. Et nous irons même jusqu'à abroger la directive du travail détaché qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises françaises peuvent utiliser de la main-d'œuvre d'Europe de l'Est où les charges sociales sont payées dans le pays d'origine. Et bien ça crée une concurrence terrible, notamment dans le secteur du BTP ou du transport pour les entreprises françaises. Donc ça sera le peuple français d'abord, l'Europe ensuite, là où Emmanuel Macron veut l'Europe d'abord et la France ensuite.
Marion. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez axé une grande partie de votre campagne sur la question du pouvoir d'achat. Vous proposez, entre autres, de supprimer la TVA sur un panier de produits de base. C'est même l'une de vos mesures phares. Un cabinet d'études économiques, Aster, s'est penché sur votre proposition. Il a étudié les conséquences d'une telle suppression sur toute une série de produits de première nécessité, comme le sucre, le lait, les pâtes, le café, le dentifrice ou encore les shampoings. Il en a conclu que le gain en pouvoir d'achat serait d'à peine 13 euros de plus en moyenne par an. Michaël Robert a demandé à Sylvain Bersinger, l'auteur de cette étude, de nous expliquer pourquoi.
Alors, elle va l'améliorer, mais un tout petit peu, et pour un coût budgétaire important. Puisque, en fait, il faut bien voir que quand on baisse la TVA, les entreprises n'ont aucune obligation de répercuter cette baisse dans leurs coûts. Et donc, en fait, le premier bénéficiaire de cette mesure sera probablement les entreprises de la distribution qui en profiteraient pour augmenter leurs marges. Donc on a un précédent historique qui est en 2009, la baisse de la TVA dans la restauration, et on se rend compte que en fait seulement 10% de cette baisse de TVA s'est répercutée sur le prix de vente final.
Notons que les plus pauvres y trouveraient le moins leur compte. Toujours selon l'étude, le gain pour les 10% de foyers les plus modestes atteindrait à peine 9 euros par an, tandis que pour les 10% plus aisés, qui en profiteraient aussi, le gain irait jusqu'à 19 euros par an. Les ménages aisés gagneraient donc deux fois plus que les plus modestes. Enfin, le grand perdant de cette affaire serait l'État, qui ne toucherait plus l'argent de la TVA sur les produits de base. Un manque à gagner estimé à 3,8 milliards d'euros. Bref, est-ce que ce ne serait pas du perdant pour les finances publiques et du pas vraiment gagnant pour les Français? Autrement dit, est-ce que ce ne serait pas une mesure plus symbolique qu'autre chose?
Madame, pourquoi est-ce que vous ne dites pas dans votre présentation que le président de cette association est un soutien d'Emmanuel Macron?
Je ne sais pas, c'est...
Si vous voulez, moi, j'ai beaucoup d'amis qui peuvent... pas chez McKinsey, mais j'ai beaucoup d'amis qui peuvent monter des cabinets pour faire des études sur le problème d'Emmanuel Macron. Ils vont en dire que du mal. Mais pourquoi est-ce que vous ne passez pas le tweet
après
de M. Bouzou, qui est le président de cette étude, donc qui trouve tout le plus grand mal à redire de notre projet, et qui a fait un tweet... un tweet il y a quelques heures pour indiquer qu'il soutenait Emmanuel Macron.
Non, mais est-ce que les chiffres présentés...
C'est parce qu'il a vu votre programme, justement, c'est pour ça.
Non, mais après, ce qu'il dit...
Non, mais l'honnêteté devrait... Parce que moi aussi, je peux avoir plein d'amis qui vont dire tout le mal qu'ils pensent.
Vous l'avez rappelé, il soutient Emmanuel Macron.
Je vous dis, il y a beaucoup de malhonnêteté.
Non, mais je vous dis... Ce qu'il dit, par ailleurs, se tient. Ils ont étudié, enquêté. Si vous avez d'autres chiffres, donnez-les-nous.
Non, mais c'est pas que j'ai d'autres chiffres.
Non, c'est
que cette étude est profondément malhonnête. L'exemple qu'il prend de la restauration. La TVA a été baissée de combien à combien?
Dites-moi.
Bah, non, mais dites-le-moi.
Parce que vous avez... c'est pas moi qui présente.
D'accord. Donc,
qui présente
vous prenez mot pour mot ce que disent les amis d'Emmanuel Macron, sans donc regarder la complexité. La TVA sur la diminution de la TVA dans la restauration était passée de 20% à 5,5%, c'est-à-dire ce qu'on veut faire sur les carburants. Nous, ce que nous proposons n'a rien à voir avec cela. Nous voulons sélectionner un panier de 100 produits de première nécessité pour supprimer la TVA, ce qui va coûter 3,5 à 4 milliards d'euros.
Il a dit 3,8, donc jusque-là,
quelle
on est dans
l'idée?
Les clous.
L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, pour des millions de Français, s'alimenter est devenu impossible. Il y a un Français sur quatre, madame, qui est obligé soit de sauter des repas, soit de limiter son
calibre. On est d'accord avec ça.
Et il y a beaucoup de Français qui sont obligés de passer leur soirée sur Internet à chercher des coupons de réduction.
On est d'accord. Alors, à combien vous évaluez le gain
de cette
dont bénéficie la position ?
Mais attendez, tout dépend du caddie de course. Je veux dire, l'idée initiale, quelle est-elle ? Et de dire aux Français, à partir du moment où l'inflation sera d'un point supérieur à la croissance, nous allons mettre en place un dispositif d'urgence qui s'activera automatiquement lorsque l'inflation sera supérieure à la croissance et qui va faire en sorte que sur un panier de 100 produits de première nécessité, le riz, les pâtes, les produits hygiéniques pour les femmes, eh bien la TVA sera totalement annulée. Et ça va permettre aux Français de finir leur plein de courses et de pouvoir récupérer du pouvoir d'achat. Mais ce n'est pas la seule mesure.
Si les baisses sont répercutées.
Mais ça n'est pas.
C'est ça que disait.
Mais ça n'est pas. Oui, mais voyez bien que.
Parce que les baisses sont répercutées.
Vous voyez bien que cette étude est profondément malhonnête.
Non, mais je ne parle pas d'étude. Je parle d'un raisonnement.
Que les amis d'Emmanuel Macron.
Les baisses de TVA, ça ne va pas toujours dans la poche des consommateurs. C'est ça.
Monte des cabinets. Pour démonter le programme de Marine Le Pen, je veux dire, c'est de bonne guerre. Mais juste, il faut le dire. Il faut être un peu honnête dans les présentations.
Vous ne répondez pas sur le fond.
Vous l'avez dit à trois reprises, donc je crois qu'on l'a tous compris, mais sur la démonstration, sur le fait que l'argent ne va pas toujours dans la poche justement des gens qui achètent.
Ça veut dire
les
quoi? Non mais attendez, ça veut dire quoi? Ça ne va pas toujours dans la poche. Ça n'a jamais été fait.
Ça va créer 3,8 milliards de déficit pour l'État et pas forcément beaucoup de gains pour les gens qui, comme vous le dites, ont des difficultés à boucler leurs mois.
Eh bien, nous les compenserons. Et ce sont donc effectivement 3,5 à 4 milliards qui n'iront pas dans les caisses de l'État. Mais vous enlevez la TVA sur des produits. Croyez-moi que ça va faire gagner. Si vous enlevez 20% de produits qui seront probablement un peu atténués, mais pas en deçà de ce que ça va rapporter pour les Français. Mais ce n'est pas la seule mesure qu'on va prendre. On va également, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, baisser la TVA sur l'ensemble des énergies.
Absolument, oui.
Parce que je considère, et nous considérons avec Marine, que se déplacer ou se chauffer est un bien de première nécessité. Donc, elle est la candidate du pouvoir d'achat, quoi qu'on en dise. Et je vous ramène à un rapport de l'Institut des politiques publiques qui a rappelé qu'Emmanuel Macron, durant son quinquennat, aura renforcé le pouvoir d'achat des 1% les plus riches, alors qu'il aura affaibli le pouvoir d'achat des millions de Français les plus modestes qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à faire face
et
ont été laissés sur le bord de la route.
Du 0,1% les plus pauvres.
Ah bah voyez, pour une fois, on est d'accord.
Ah, c'est pas
ah mais oui, mais écoutez, le ciblage, quand il s'agit de supprimer l'ISF ou la flat tax pour les très riches, ça marche. Donc si ça marche dans un sens, croyez-moi, ça va marcher dans l'autre sens.
Ces mesures, qui les mettra en œuvre? Vous ne voulez pas dévoiler avec qui Marine Le Pen pourra gouverner. Pourtant, en novembre dernier, la candidate, votre candidate, citait des noms. On l'écoute.
Chez tous ceux qui croient en la France, et je l'ai dit, de Zemmour à Montebourg, tous ceux qui croient en la France ont vocation à pouvoir participer à un gouvernement d'union nationale.
De Zemmour à Montebourg, tous ces hommes ont vocation à être dans un gouvernement d'union nationale. 5 mois plus tard, elle-même dit qu'elle ne veut pas d'Éric Zemmour et Arnaud Montebourg a appelé à voter Emmanuel Macron. Il reste qui?
Oui, mais vous, encore une fois, je ne vous fais pas de faux procès, mais vous avez un peu raccourci le passage. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il n'y a pas d'ennemis dans le côté de ceux qui croient en la France.
J'ai vu la vidéo.
Éric Zemmour,
tout le passage concerne avec qui elle mettrait dans un gouvernement. Elle finit par citer ses deux noms.
Ce qu'elle veut dire, c'est que ce soit Arnaud Montebourg, que ce soit Éric Zemmour, ce n'était pas et ce ne sont pas nos adversaires dans cette campagne. Ce que je veux juste dire, c'est que si Marine Le Pen est élue présidente de la République, ce n'est pas le Rassemblement national qui va arriver à la tête de l'État. Évidemment qu'il y aura des visages du Rassemblement national qui composeront le gouvernement. Mais sa volonté, c'est de faire un gouvernement d'union nationale, de prendre le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche. Mais croyez-moi, quand on est la présidente de la 7e puissance mondiale, et je crois que d'ailleurs il est temps de faire élire une femme à la tête de l'État, les Français ont cette chance historique, eh bien on n'a pas de difficulté à composer un gouvernement. Juste, procédons par étapes, je comprends les impatiences, mais ce second tour, ces 10 jours qui viennent, c'est le choix d'une personnalité et c'est le choix d'un projet pour le pays. Viendra le temps où nous composerons
le gouvernement. C'est souvent le moment du rassemblement aussi.
Le gouvernement, mais
il n'y a personne qui vous rejoint.
Ah, j'ai cru voir que Marine réunissait les votes d'un Français sur deux avec les marges d'erreur au second tour de l'élection présidentielle. Donc elle n'est pas seule, elle a le peuple avec elle. Et évidemment que le référendum sur l'immigration, le projet de loi sur l'islamisme, l'ensemble des livres blancs que nous avons fait sur le sujet de la sécurité, tout cela clé en main, disponible sur nos sites internet, le chiffrage, tout cela a été travaillé avec des juristes, avec des hauts magistrats, avec des gens qui connaissent la réalité de ce que vivent les Français.
Et qui pourraient être ministres demain.
Mais qui, bien sûr, pourraient être ministres demain.
Comme vous. Vous pourriez être ministre et devenir le plus jeune ministre de la 5e République.
C'est Marine Le Pen qui fera son choix.
Oui. Et le Premier ministre, sans doute, qui ne paierait pas d'impôts. Ça, ce serait extraordinaire, parce que vous n'avez pas 30 ans.
C'est vrai que nous souhaitons exonérer d'impôt sur le revenu tous les jeunes de moins de 30 ans. Merci de me rappeler que je suis le Benjamin de ce plateau. Mais non, c'est vrai que c'est une mesure très forte pour les jeunes. C'est un choix D'abord, on déplore qu'il y ait 160 000 jeunes qui sont contraints de partir chaque année parce que beaucoup de jeunes ne trouvent pas en France une fois le diplôme obtenu. Non, mais les ministres sont évidemment soumis à l'impôt. Mais comprenez bien l'intérêt de la mesure.
S'ils ont moins de 30 ans, non?
Non, mais je vais en parler de mon cas pendant 3 heures. Mmh. Évidemment que je paierai des impôts, qui plus est, en tant que ministre ou en tant qu'élu, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est juste de dire on ne veut pas que les jeunes, une fois le diplôme obtenu, soient contraints de partir à l'étranger pour trouver un job. Et on veut que les talents, parce que c'est l'énergie de demain, parce que c'est un formidable message d'espoir, tout mettre sur la jeunesse. Et donc, on exonérera les jeunes de moins de 30 ans d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les sociétés, tout jeune de moins de 30 ans qui crée son entreprise. Cela pendant une durée de 5 ans. Donc vous voyez, on a beaucoup de choses à dire. Notre programme ne se limite pas à la question de l'immigration ou à la question de la lutte contre l'islamisme.
J'ai présenté 40
et je suis ravi que vous ayez pu en parler. C'est rare que je sois d'accord avec vos éditos, mais ce soir, il était parfaitement neutre et objectif. On finira la campagne sur...
Bon, et concluez quand même sur le fait que vous continuez à vouloir opérer une sorte de Brexit qui n'est
pas
son nom.
Ouais, non, là, je ne suis pas... Non, voilà. D'accord, mais je l'ai dit et on a pu échanger là-dessus.
Pierre.
Mardi, il était question dans une conférence de presse pour Marine Le Pen des institutions, du fondamental. Parmi les projets de votre candidate, le référendum d'initiative citoyenne. Toute la question maintenant, un des débats, c'est de savoir quel type de sujet pourrait voir les Français s'en emparer. Alors, il y avait le sujet très symbolique du retour à la peine de mort.
Rien ne me choque, si vous voulez. Je pense qu'il n'y a pas de débat interdit dans une grande démocratie mature. Il n'y a pas de débat interdit. Il n'est pas utile de mettre en place la peine de mort à partir du moment où, comme je le souhaite, sera mise en œuvre la perpétuité réelle.
La question de la peine de mort pourrait passer par un référendum. Tout pourrait passer par un référendum.
Et la question de la peine de mort ?
Sauf ce qui va à l'encontre de la Constitution, puisque la réalité, c'est qu'on ne peut pas, on ne pourra pas changer la Constitution par un référendum d'initiative citoyenne. Et on ne pourrait pas, évidemment, changer des choses qui mettent en cause l'intérêt vital du pays.
Il y a quelques jours, vous jugiez envisageable un référendum sur le rétablissement de la peine de mort. Depuis hier, c'est inconstitutionnel, c'est vous qui le dites. Qu'est-ce qui vaut ce rétropédalage ?
Non, je ne crois pas qu'il y ait un rétropédalage. Je l'ai toujours dit, le référendum d'initiative citoyenne ne peut pas modifier la Constitution. Je l'ai dit et redit à plusieurs reprises.
Vous avez été amené à revoir certains projets à l'aune de la Constitution ?
Non, en fait, il y a le référendum d'initiative citoyenne et le référendum qui peut être engagé soit par l'article 11 de la Constitution, soit par le fameux article 89. Le référendum d'initiative citoyenne qu'on mettra en place, qui a été aussi une des grandes revendications du mouvement des Gilets jaunes, mais qu'on a, nous, dans le projet de notre famille politique depuis 30 ans, vise à permettre aux Français, 500 000 citoyens qui se réunissent, qui signent un document, de porter un sujet au vote et au suffrage du peuple français. On veut rendre le pouvoir au peuple français et je pense que ça va oxygéner notre démocratie. Alors, c'est vrai que ce sont exemples, pour vous répondre très complètement, des sujets qui pourraient être évoqués par le RIC, les référendums qui toucheraient à la Constitution ou des sujets dont on pourrait dire qu'ils auraient un impact sur la sécurité nationale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer un RIC pour supprimer l'armée, par exemple.
Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité avec la story de Mohamed Bouabsi. Mohamed, vous nous parlez ce soir du positionnement du Rassemblement national et de Marine Le Pen vis-à-vis de la Russie.
Oui, Jordan Bardella, depuis 51 jours, le peuple ukrainien vit sous les bombes russes. Toute la communauté européenne s'est mobilisée pour l'Ukraine. Et depuis le début de la guerre, Jordan Bardella, je vous avoue qu'on a un peu du mal à comprendre la position de Marine Le Pen sur les sanctions contre la Russie.
Je dis attention à la nature des sanctions, que la nature des sanctions n'entraîne pas, si vous voulez, qu'en fait ce soit les Français qui soient les sanctionnés.
Ce que je ne souhaite pas, c'est que les Français se fassent harakiri au motif de sanctions décidées par nos dirigeants. Il faut avoir une position raisonnable, et ma position est raisonnable. Ma position, ça a été d'abord de condamner la Russie lorsqu'elle a envahi l'Ukraine. Ma deuxième position, ça a été de dire oui aux sanctions. La seule chose que je ne souhaite pas, ce sont des sanctions sur les matières premières qui vont avoir des conséquences plus lourdes sur les Français.
Quant aux sanctions contre la Russie, je vous le dis, je pense qu'elles sont inefficaces.
Si Marine Le Pen n'a pas une position claire, vous, au Parlement, vous en avez une bien définie. Tout commence avant l'invasion russe en Ukraine. Le 16 février 2022, le Parlement européen vote un prêt d'1,2 milliard d'euros à l'Ukraine.
I risultati del primo turno di votazione di oggi sono i seguenti. Allora, sulle votazioni uniche, assistenza macrofinanziaria all'Ucraina, proposta della Commissione, approvata.
On le voit sur ce tableau, 55 eurodéputés ont voté contre ce prêt, parmi eux les 18 eurodéputés Rassemblement National, dont vous. Depuis, la guerre en Ukraine a donné lieu à 4 votes au Parlement européen pour sanctionner la Russie. Il est vrai que le 1er mars, vous avez, avec vos collègues, hormis Thierry Mariani, condamné l'invasion russe. Mais dès qu'il s'agit de sanctionner Vladimir Poutine, vous étiez absent. Le 9 mars 2022, vous vous abstenez contre l'interdiction des passeports dorés, ces permis de séjour accordés aux oligarques russes. Autre vote de sanction, le 7 avril 2022.
Paragraph 2, by roll call, vote is open. Vote is closed. Adopted.
On le voit là, ce sont vos sièges. Vous n'étiez même pas présent dans l'hémicycle pour voter ce nouveau paquet de sanctions, notamment celle visant les oligarques ou le gel de plusieurs banques russes. Et vous ratez aussi ce jour-là la résolution pour accorder la protection de l'Union européenne aux enfants et aux jeunes qui ont fui l'Ukraine en raison de la guerre. Que répondez-vous, Jordan Bardella, à ceux qui considèrent que vos abstentions s'expliquent par un conflit d'intérêts, le prêt de 9 millions d'euros accordé à Marine Le Pen par une banque russe proche de Vladimir Poutine? Est-ce que vous votez sous influence russe, Jordan Bardella?
Non, pas du tout. Je noterai votre objectivité toujours irréprochable. Si je n'ai pas participé à ce vote, parce qu'il y en a eu plusieurs, et notamment la résolution qui condamnait l'agression de l'Ukraine par la Russie, je l'ai voté sans la moindre ambiguïté.
Je l'ai dit,
c'est que nous étions, exactement, c'est que nous étions dans les, non pas gênés, mais dans les dernières heures de la campagne présidentielle, et que, pardon, mais j'étais effectivement avec Marine Le Pen
et
sur le
que,
terrain.
Pas que forcément
et notamment,
vous, Jordan Bardella, vos collègues aussi,
qui
les
sont
autres
aussi en campagne pour le Rassemblement National, et j'étais à Perpignan, voyez-vous, pour le dernier meeting de la campagne présidentielle, Perpignan, dont le maire Louis Alliot a pris en charge, vous le savez, des réfugiés. Qu'il a lui-même été cherché d'ailleurs à la frontière avec la Pologne, et qui ont été pris en charge dans des structures d'accueil à Perpignan. Nous avions voté à la plénière de mars le déblocage des fonds FEDER, qui prévoyait notamment un déblocage de fonds publics, de fonds européens, pour aller prendre en charge des réfugiés ukrainiens. Donc il n'y a aucune ambiguïté de notre part sur ce sujet. Je vous rappelle juste sur ce que vous avez dit, qui me paraît assez diffamatoire, il n'y a aucune influence russe du Rassemblement National. Je rappelle juste aux Français qui nous écoutent que si nous avons dû contracter un prêt à l'égard d'une banque russe en 2015, d'une banque tchéco-russe à 6%, ce n'était pas un prix d'amis, c'est parce qu'aucune banque française, aucune banque européenne n'avait souhaité prêter au Rassemblement National. Et voyez le piège dans lequel tente de nous enfermer le pouvoir, c'est qu'en même temps, on nous empêche d'emprunter auprès des banques pour pouvoir financer nos campagnes électorales, et on va ensuite nous reprocher d'aller nous financer auprès d'une banque qui, je le rappelle, depuis a fait faillite.
Toujours 8 millions d'euros d'ailleurs.
Oui, une banque tchéco-russe qui depuis a fait faillite, sa créance a été rachetée, mais c'est
rachetée
comme
par,
si
rachetée par deux hommes proches de Vladimir
c'est comme
Poutine,
si,
Jordan Bardella.
Si la banque était sous influence du Kremlin, a priori la banque n'aurait pas fait faillite. Mais c'est comme si vous alliez reprocher à un étranger.
Non, elle a été rachetée.
C'est comme si
par
vous
des
alliez
anciens militaires
c'est,
proches de.
C'est comme si vous alliez reprocher à un étranger qui vient en France, qui contracte un prêt à la Société Générale, à un Italien qui vient en France, d'être redevable auprès d'Emmanuel Macron. Donc nous ne sommes redevables auprès de personne.
Non, non.
Mais je
c'est
vous dis une chose.
Bancaire français, c'est pas exactement.
Je vous dis une chose.
Russe.
Mais si la banque, cette banque russe, était sous influence du Kremlin, croyez-moi, elle n'aurait pas fait faillite. Mais si demain matin,
elle
je vous dire une chose. Si demain matin, une banque française ou une banque européenne accepte de racheter cette créance, mais nous signons dans l'heure. Et ça, nous le disons depuis 8 ans, c'est-à-dire depuis 2015.
Or,
pour l'instant, nous n'avons pas trouvé d'écho. Emmanuel Macron, qui semblait avoir trouvé un écho lors de son élection, avait parlé de la Banque de la démocratie, qui était pour le coup une bonne mesure poussée par François Bayrou, qui n'avait pas vu le jour. Et pour vous répondre sur un troisième point, sur la question des sanctions, nous avons effectivement, et je l'assume, je n'ai pas voté des sanctions qui pouvaient être plus lourdes pour le peuple français que pour le peuple russe. Parce que vous voyez, quand on vote un embargo sur le gaz russe, pardon, mais aujourd'hui, en l'état actuel des choses, nous avons zéro.
Ça n'a pas,
zéro
été,
pas été voté.
Alter...
Ça n'a
ça
pas
été,
été voté.
Soumis,
ça n'a pas été adopté.
D'accord, mais ça a été quand même soumis au vote des parlementaires européens. Ouais. Quand ça a des conséquences dramatiques pour le pouvoir d'achat des Français et que ça entraîne une explosion de leur facture de gaz, eh bien, pardon de penser au mien d'abord.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Une
Merci
dernière question très intéressante,
oui.
très intéressée. Lundi, nous recevons Emmanuel Macron,
ouais.
Qui sera opposé mercredi à votre candidate pour le débat d'entre-deux-tours, qui a accepté notre invitation. Une heure et demie de dialogue avec l'équipe de C'est à vous et avec des questions de nos téléspectateurs. Pourquoi Marine Le Pen refuse-t-elle de venir sur le plateau de C'est à vous ? Malgré nos nombreuses invitations répétées.
Écoutez, vous pourrez poser d'abord la question à Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'il a refusé toutes les émissions du service public
pardon.
Pendant la campagne ? Non mais, il faut être juste. Je vous rappelle qu'il a...
Il était ce matin sur France Info, qui est une radio de service public,
on va demander,
par exemple.
Oui, enfin, demander,
il sera la semaine prochaine.
Demander à vos confrères de la même maison, à vos confrères de France Télévisions, de la 2, des 4 vérités, demandé à vos confrères d'Élysée 2022 pourquoi est-ce qu'il a annulé l'ensemble des débats et qui ont eu le plus grand mal, ils nous l'ont
il
dit.
Il était dans les quatre vérités
à obtenir,
cette semaine.
Hein. Exactement, mais ils n'ont pas réussi à l'avoir avant le premier tour parce que Marine Le Pen.
Ma question
a fait
pose sur la présence de Marine Le Pen
a
dans
fait
cet avou.
D'émissions. Je ne vous cache pas en revanche qu'il arrive que dans certaines émissions, certains journalistes peinent à dissimuler leur hostilité
c'est
à l'égard de Marine
ici.
Le Pen. Et quand elle estime qu'elle ne peut pas exprimer ses idées à
c'est
charge
le cas ici,
et à
vous
décharge.
Vous ne pouvez pas exprimer vos idées, Jordan Bardella, parce que vous partagez les idées de Marine
toujours,
Le Pen.
Bien sûr, j'ai toujours été très bien reçu et je suis très ravi de venir les défendre.
Bon, si elle a peur du journaliste, il ne faut pas qu'elle fasse présidente. Moi, je vous le dis comme ça. Hein.
Non, mais vous faites partie, effectivement, de ces gens, M. Cohen, qui avaient du mal à dissimuler votre hostilité. Et plusieurs fois,
vous avez
à mon reconnu
égard, l'objectivité de
plusieurs
son
fois,
édito,
mais nous terminons sur une note, nous terminons la campagne sur une note positive. Mais
Marine Le Pen
je dois vous avouer, M. Cohen, que vous m'avez reçu à plusieurs reprises depuis maintenant, depuis les élections européennes, depuis un temps. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, vous avez un peu de mal à dissimuler votre hostilité à notre égard. Donc,
est-ce que vous posez des questions c'est marqué une hostilité.
Jordan Bardella, c'est pas mon hostilité.
C'est
ma connaissance du Front National que je suis depuis 25 ans.
Et vous voyez, le fait que vous l'appeliez encore le Front National...
Oui, c'était le Front National. En 97-98, quand j'ai commencé à suivre, c'était le Front National.
Vous ne manquez pas de
rappeler. J'ai été l'un des premiers à inviter Marine Le Pen dans une grande émission, c'était au Grand Jury RTL. Et donc, je connais assez bien ce mouvement, ce parti, ses membres, Marine Le Pen... Et il est dommage qu'elle refuse aujourd'hui. J'ai eu des centaines d'occasions de l'interviewer. Il est dommage aujourd'hui qu'elle refuse cette confrontation.
Bon, si elle change
écoutez, en tout cas, je vais finir par un compliment puisque j'ai regardé l'émission de Lina que vous avez fait avec elle et je l'ai trouvée très intéressante.
Ben voilà, si vous vouliez bien convaincre Marine Le Pen de venir
écoutez,
répondre
le
à
mot,
nos questions.
Le mot sera transmis, mais vous pouvez aussi poser l'action Emmanuel Macron qui a séché à peu près tous les débats de cette campagne.
Il sera lundi sur le plateau de C'est à vous de 19h à 20h30. Merci Jordan Bardella.
Merci à vous.
C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Pardon pour le retard, cher Mathieu.
Bonsoir à toutes et à tous.
Un cadeau d'anniversaire empoisonné. Il y a 3 ans, jour pour jour, l'incendie de la capitale Notre-Dame de Paris.
La cathédrale. Oui. La nuit du 15 au 16 avril 2019, les Parisiens, les Français, le monde entier voyaient la cathédrale en proie aux flammes, sa flèche s'effondrait. À l'aube, la cathédrale était sauvée, mais très sévèrement endommagée. Et Emmanuel Macron s'engageait alors, nous rebâtirons Notre-Dame. Plus belle encore, je veux que ce soit achevé d'ici 5 années. Eh bien voilà 3 années découlées. Depuis l'incendie, c'est une zone touristique majeure de la capitale qui est à l'arrêt. Iban Raïs et Théo Clamart ont rencontré Patrice Lejeune, c'est le président des commerçants du quartier Notre-Dame. Visite guidée au pied du chantier de la cathédrale.
Mais... L'incendie de Notre-Dame a été une catastrophe pour l'église, mais ça a été aussi une catastrophe humaine au niveau des commerçants et des riverains. Le quartier a perdu une partie de sa vie. Regardez, là c'est un marchand de souvenirs. Bon, vous voyez,
il n'y
a personne. Hein ?
Bonjour.
Il n'y a personne. Là, on va arriver à une crêperie. Ben, ils ont entièrement fermé, ils ont fait un dépôt de bilan. Là.
Comment vous me décririez votre activité depuis l'incendie de Notre-Dame ?
Ben, on a eu des époques à moins 100%. Et à l'heure actuelle, depuis le début de l'année, on fait moins 75% toujours. On ne peut pas avoir d'espoir parce qu'on ne sait pas où on va aller. On ne sait pas. On ne sait pas, c'est une catastrophe.
Bonsoir Général Jean-Louis Georgelin. Merci de votre présence ce soir. C'est vous qui avez la mission de superviser les travaux de restauration et de réparation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'objectif de réouverture 2024 sera-t-il tenu?
Écoutez, madame, je suis là pour ça, donc il sera tenu.
Pour les Jeux?
Non. Ça n'a rien à voir. Je sais bien, on a fait le rapprochement entre les délais de 5 ans. Pas du tout. Vous savez, ce délai, c'est la première fois que le président de la République m'a reçu pour me dire « Mon général, je vais vous confier ça ». Je lui ai dit « Monsieur le Président, il y a quelque chose qu'on entend depuis hier soir, c'est « Moi vivant, je n'enverrai plus la cathédrale, ça va durer 20 ans, etc. » comme la cathédrale de Reims. Et je lui ai dit « Il faut qu'on coupe les ailes de ce canard parce qu'on n'y arrivera jamais. » Je lui dis « Je ne sais pas combien de temps ça devrait durer, 7-8 ans. » Et il me dit « 5 ans, c'est parti comme ça. » Voilà.
C'est une drôle de mission qui est la vôtre, finalement. Il y a eu beaucoup
drôle,
de débats
drôle,
sur...
Drôle, oui.
Il y a, disons, un équilibre à trouver entre le lieu de tourisme et le lieu de culte, qu'est la cathédrale Notre-Dame. On a beaucoup débattu de l'architecture de la flèche, de la décoration intérieure. Vous êtes sur cette brèche-là, entre les deux...
Moi, je restaure une cathédrale qui est une église de culte catholique. Je ne restaure pas un monument, je ne restaure pas un musée, je restaure une église de culte catholique, et en 2024... Nous voulons rendre au culte catholique l'archevêque de Paris sa cathédrale. En même temps, Notre-Dame de Paris, c'est, dit-on, le monument le plus visité d'Europe. Le chiffre de 13 millions, là aussi, il faudrait voir comment ces chiffres sont comptés. C'est aussi, évidemment, un monument que l'on vient voir pour son architecture. Hein. C'est la plus belle cathédrale gothique du monde, enfin, d'Europe, donc du monde. Donc c'est, les gens viennent le voir pour cette architecture. C'est devenu, à travers les siècles, un véritable monument national. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'une église. Hein, les grands spécialistes vous expliquent que le tournant, c'est le sacre de Napoléon qui va en faire, etc. Tous les grands événements de l'histoire de France se sont, à un moment ou à un autre, retrouvés à Notre-Dame. Mais ça ne doit pas faire perdre de vue que c'est une église catholique.
Alors très concrètement, aujourd'hui, pour bien comprendre, on est sorti d'une première phase qui était une phase de sécurisation, de nettoyage. Mais ces derniers jours-là, sur le chantier, sur quoi est-ce qu'on travaille?
Alors, on a achevé cette phase de sécurisation et de consolidation à la fin de l'été dernier. Pourquoi? Parce qu'il fallait s'assurer que la cathédrale était solide sur ses piliers, que ses murs étaient encore solides, que ses voûtes étaient encore solides, qu'il n'était pas nécessaire de les abattre, ce qu'on avait pu envisager à une certaine époque. Et maintenant, nous sommes entrés dans la phase de restauration, reconstruction. Le premier chantier que l'on a fait, qui est d'ailleurs assez spectaculaire quand on rentre dans la cathédrale, c'est le nettoyage des poussiérages, des élévations et des voûtes. Si vous allez à la cathédrale, vous le voyez à l'écran en ce moment, vous voyez la rapidité de ce travail. On a ensuite complètement échafaudé la cathédrale à l'intérieur pour faire ce travail. Et nous sommes en train de passer les 130 contrats de travaux avec des entreprises pour dérouler la programmation qui nous amènera en 2024. Évidemment, ce que l'on attend, c'est ce qui sera le plus spectaculaire et aussi le plus délicat, c'est la reconstruction de la flèche et la fermeture du transept. Dès le mois de janvier, de juin, on m'a arrêté pendant 3 semaines parce que, comme vous l'avez su, il y avait des fouilles qui ont permis de découvrir des vestiges du jubé du XIIIe siècle, deux sarcophages, oui, etc. À partir du mois de juin, nous allons commencer à construire sur un sol consolidé un échafaudage qui va faire 100 mètres de haut, qui va peser 600 tonnes et qui permettra de reconstruire la flèche, puis la voûte, etc. Et donc, on verra dans le ciel de Paris, à partir du début 2023, cet échafaudage commencer à poindre.
C'est une perspective positive.
Voilà, vous avez 5 ans pour construire Notre-Dame et vous avez 10 secondes. J'ai 20 secondes pour vous remercier, général Jean-Louis Georgelin. Mille merci, mille excuses d'avoir dû écourter notre échange.
C'est moi, madame, qui vous remercie d'avoir pu dire clairement que nous serions prêts en 2024.
Bravo. C'est vous qui l'avez dit, général. Président de l'établissement public chargé de la conservation de la restauration de Notre-Dame de Paris, merci de votre présence ce soir. Rendez-vous en 2024, dès 2023 pour la flèche. À tout de suite pour le dîner de C'est à vous avec nos aventuriers de l'extrême.
Je vous réserverai un prix Dieu en 2024. Ah,